Bonjour à tous, bienvenue sur En Échappée, le blog des passionnés de voyage à vélo. Et bienvenue dans cette première édition de notre émission Posez-nous vos questions. Bonjour Lucie.
Bonjour Maxime. Pour rappeler le concept de l'émission, des lecteurs nous ont posé des questions sur le voyage à vélo, sur notre blog, sur Facebook ou par email, et nous leur répondons dans ce podcast. Maxime, peux-tu me lire la première question?
Alors la première question a été envoyée par Santoré qui nous demande: je souhaiterais faire en itinérance à vélo l'un des pays suivants, Suède, Norvège ou Finlande. Quel est celui le plus approprié pour faire du bivouac? Y a-t-il des itinéraires balisés? Toute réponse ou info concernant le vélo en Suède, Norvège ou Finlande seront les bienvenues. Donc commençons par répondre à la question sur le bivouac.
Alors concernant le bivouac dans les pays nordiques, notamment la Suède, la Norvège et la Finlande, il existe un droit d'accès à la nature inscrit dans la loi. C'est le droit de pratiquer des activités diverses de plein air, notamment le bivouac, dans la nature, sur des terres publiques et privées, sans autorisation préalable, à l'exception des terres cultivées, sauf si elles sont recouvertes de neige, et des jardins privés, et en faisant attention à ne pas porter atteinte aux propriétaires, par exemple en s'installant trop proche d'une habitation. Il y a quand même quelques règles pour ces trois pays, ne pas abîmer ou salir les lieux et ne pas perturber la faune et la flore. Pour la Suède et la Norvège, les feux sont autorisés en suivant des règles de sécurité. En tout cas, dans ces trois pays, le bivouac est assez facile, car il y a beaucoup de forêts, ce qui facilite la pratique. Personnellement, nous avons voyagé en Suède et en Norvège, et nous n'avons jamais eu de problème pour bivouaquer. On trouvait systématiquement un emplacement le soir dans la forêt, non loin de la route, ou en s'éloignant un petit peu plus dans la forêt. Donc, pour répondre à la question, quel est le pays le plus approprié pour faire du bivouac entre les trois? Je dirais que c'est assez équivalent, et que ces trois pays bénéficient du même droit à la nature, à condition de faire attention à l'environnement. Et dans ces trois pays, c'est assez facile grâce à cette nature justement très présente. Ensuite, on nous demandait s'il y a des itinéraires balisés. Maxime, est-ce que tu as des réponses là-dessus?
Oui, donc concernant les itinéraires balisés, je vais vous parler notamment des Eurovélos. Donc il y a de nombreux Eurovélos qui traversent la Norvège, la Suède et la Finlande. Bon, je vais vous faire une liste de l'état d'avancement des différents Eurovélos dans ces pays. Donc je vais commencer par l'Eurovélo 3, c'est la véloroute des pèlerins. Donc dans les pays nordiques, elle va de Trondheim à Oslo, puis Göteborg. Donc l'itinéraire n'est pas réalisé sur ces sections, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signalisation, pas d'informations détaillées sur le net, ou il y a des sections problématiques. Pour avoir roulé sur cette route entre Göteborg et Oslo, c'est un parcours que d'ailleurs nous vous recommandons, nous vous confirmons qu'il n'y a rien entre Göteborg et la frontière norvégienne. Il n'y a pas de balisage. Après la frontière, cependant, il y a le balisage de l'Eurovélo 12, mais celui-ci s'arrête à Oslo. Nous avons trouvé un plan PDF sur la partie norvégienne de cet Eurovélo que nous allons mettre en lien en dessous de ce podcast. Voilà pour l'Eurovélo 3. Maintenant, l'Eurovélo 7, c'est la véloroute du soleil qui passe entre Helsingborg, Göteborg, Umeå et le Cap Nord. Cette route est aussi non réalisée. Nous avons roulé sur l'Eurovélo 7 en voyage et bien qu'elle ne soit pas balisée en tant que telle, nous avons suivi tout le long le balisage de la Kattegatlöden entre Helsingborg et Göteborg, qui suit quasiment le tracé de l'Eurovélo 7. Le balisage ainsi que le site web de la Kattegatlöden sont vraiment très bien faits. Et d'ailleurs, nous vous recommandons cette fois encore le parcours le long de la mer du Nord. C'est vraiment magnifique, très pratique pour bivouaquer et très adapté pour les vélos. Maintenant, l'Eurovélo 10, la véloroute de la Baltique. Donc cette route Eurovélo longe toute la mer Baltique et au niveau des pays nordiques, elle passe par Copenhague, Stockholm, Stuvenkari, Turku et Helsinki et ensuite va à Saint-Pétersbourg. Donc une fois encore, la plupart de cette route n'est pas réalisée. Cependant, la section finlandaise est, d'après le site eurovélo.com, entièrement réalisée, ce qui signifie balisée. Nous n'avons cependant pas réussi à trouver des informations supplémentaires sur le balisage de cette route Eurovélo. L'Eurovélo 11, c'est la véloroute de l'Europe de l'Est. Elle traverse la Finlande d'Helsinki au sud jusqu'au nord, donc en passant un peu en Norvège et pour aller jusqu'au Cap Nord. Cette partie est principalement non réalisée, avec quelques rares portions réalisées, donc balisées en Finlande. Mais c'est vraiment assez mince. L'Eurovélo 12, la véloroute de la mer du Nord, va de Göteborg à Oslo, puis longe la mer du Nord jusqu'au fjord du Sud-Ouest à Bergen. Cette route est non réalisée sur le site officiel. Cependant, nous l'avons pratiquée entre Göteborg et Oslo, c'est-à-dire que c'est la même que l'Eurovélo 3 sur cette section, et nous avons suivi un bon balisage qui continuait ensuite vers l'ouest. D'ailleurs, sur le site Cycling Norway, des cartes interactives pour les cyclistes sont proposées. Enfin, l'Eurovélo 13, c'est la véloroute du rideau de fer. Elle suit la frontière entre la Russie et la Finlande, du nord au sud. Elle est aussi non réalisée, mais il y a un tracé interactif sur Internet. Pour résumer tout ce que je viens de dire, finalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de nombreuses routes Eurovélo en Norvège, Suède et Finlande, et que celles qui sont réalisées, ce sont l'Eurovélo 10 en Finlande, la partie d'Eurovélo 7 sur la Kattegatloden, donc au sud-ouest de la Suède, et un peu de la route de la mer du Nord, donc l'Eurovélo 12, entre la frontière suédoise et Oslo. Donc voilà, toutes ces infos sur les routes Eurovélo, nous avons trouvé dans notre article Les routes Eurovélo, tout pour préparer votre itinéraire. Donc c'est un de nos articles les plus lus qui recense les états d'avancement de chaque section de chaque Eurovélo avec des liens vers les itinéraires de ces sections. Donc voilà pour les Eurovélos. Il existe en plus pour la Norvège le site Cycling Norway qui recense toutes les pistes cyclables du pays.
Merci Maxime pour ces nombreuses ressources. On va maintenant passer à une autre question par Pascal sur le groupe Facebook Liberté Cycle qui nous disait: j'envisageais de faire la Via Rhôna l'été prochain. On m'a dit que c'était mal emménagé car il y avait beaucoup de routes à grande circulation. Il y a bien sûr quelques petites routes et voies vertes, mais il semble que la sortie de Lyon et après Montélimar, pardon, il n'y a que de la route. Pouviez-vous me donner votre avis? Donc, pour cette question, pardon, on a deux points. Déjà, savoir si l'itinéraire est mal aménagé, car beaucoup de routes à grande circulation, et ensuite parler de la sortie de Lyon et après Montélimar, où il n'y aurait que de la route. Donc déjà, pour faire un rappel sur la Via Rhôna, il s'agit de 815 km qui vont du lac Léman à la Méditerranée, avec une arrivée au choix à Sète ou à Port-Saint-Louis, le tout en longeant le Rhône pour découvrir sa vallée. Et c'est un itinéraire qui passe notamment par Genève, Lyon, Valence et Avignon. C'est un itinéraire qui a été commencé au début des années 2000, mais avec un vrai essor à partir de 2015, et notamment une labellisation Eurovélo, on parle de l'Eurovélo 17, en 2016. Des travaux d'aménagement sont prévus jusqu'en 2020. Donc première question, est-ce que l'itinéraire est mal aménagé? Donc sur le site officiel de la Via Rhôna, dont je vous mets le lien en dessous du podcast, ils indiquent que l'itinéraire complet est conseillé aux cyclistes expérimentés compte tenu des étapes qui restent encore à finaliser. Ainsi, ils ne se cachent pas du fait qu'il y a encore des portions sur voie partagée et des portions provisoires un peu pénibles pour les cyclistes, notamment entre Lyon et Gisors où la portion est réputée assez pénible et après Avignon où la portion n'est pas vraiment tracée. Pour un travail de terrain très détaillé sur les aménagements réalisés ou non sur l'itinéraire, de Genève à Port-Saint-Louis par tronçon, allez voir le site internet de Claudio, que je vous mets en dessous du podcast, expert de la Via Rhôna, et qui propose une grille très détaillée d'évaluation du parcours. Il indique notamment les passages dangereux à vélo. C'est très utile. Au niveau du balisage, les habitués parlent d'un balisage correct jusqu'à la frontière Ardèche-Drôme, puis il n'y aurait plus rien en allant vers le sud. Pour la question de la sortie de Lyon et après Montélimar, où il n'y aurait plus vraiment de voie verte mais uniquement de la route, en effet, la sortie de Lyon est réputée très pénible jusqu'à Gisors. La voie verte se récupère après Loire-sur-Rhône. Donc entre Lyon et Gisors, on va longer une autoroute, puis emprunter des départementales, ce qui n'est pas l'idéal. Mais sur le site, encore une fois, de Claudio, il propose une alternative pour éviter Lyon, par l'est, entre Mâcon et Valence, pour ceux qui souhaiteraient vraiment éviter le passage par cette ville. D'autres cyclistes encouragent les personnes à prendre le train, par exemple s'ils voyagent avec des enfants, pour éviter cette portion un petit peu dangereuse. Pour l'arrivée et la sortie de Montélimar, elles sont proposées en voie verte sur le site Via Rhôna, le long du canal de dérivation de Montélimar. Et la voie verte se poursuit jusqu'à Bourg-Saint-Andéol, avec quelques traversées de départementales, ponctuellement. Après Avignon, le parcours est non tracé jusqu'à l'étang du Charnier, puis on a une voie verte jusqu'à Aigues-Mortes. Puis un parcours provisoire sur des routes automobiles avec parfois une piste cyclable séparée entre le Grau-du-Roi et Sète. Donc ça, c'est pas l'idéal. Pour l'itinéraire jusqu'à Port-Saint-Louis, on a une voie verte du sud d'Arles, le long du canal d'Arles à Bouc jusqu'à Le Moulin, puis des routes de campagne. Ce que je vous conseille, en fait, pour l'itinéraire de la Via Rhôna, c'est par exemple de vous procurer le topo guide de Clodio, que nous n'avons pas utilisé nous-mêmes, mais qui semble bien détailler l'itinéraire par un cycliste très expérimenté sur ces portions, pour l'avoir beaucoup parcouru lui-même. Il y a aussi un site que vous pouvez consulter gratuitement, qui s'appelle Via Vélo, où un cycliste a aussi parcouru ces portions et vous donne beaucoup de détails. Je vous mets le lien en dessous du podcast encore une fois.
Merci Lucie pour ces précisions sur la praticabilité de la Via Rhôna. Enfin, je vais vous parler de la dernière question que nous avons eue. C'était de la part de Marie qui nous demande: Bonjour, mon mari et moi, on voudrait faire l'année prochaine de Daunschingen à Vienne le long du Danube et je me demandais s'il y avait des campings tout le long, comme le long de la Loire. Donc oui, il y a de nombreux campings le long du Danube. Un membre de Voyage Forum donne d'ailleurs la liste de tous les campings où il a dormi, avec un avis sur ceux-ci. Pour leur part, ils ont voyagé de Bâle à Nagymaros. Donc cela comprend le parcours entre Daulschingen, excusez mon accent allemand inexistant, et Vienne, et leurs étapes allaient de 30 à 105 km, avec une moyenne de 80. Le bivouac, le long du Danube, est facile. Un membre de Voyage Forum, toujours, raconte qu'il a bivouaqué tout le long de son voyage et que ce n'a posé aucun problème. Autre possibilité d'hébergement, les nombreuses auberges et chambres d'hôtes appelées Gasthaus, Zimmer ou pension en Autriche.
D'ailleurs, pour toutes ces indications que tu nous donnes, Maxime, les liens seront disponibles encore une fois sous le podcast pour vous permettre d'y accéder.
Évidemment. Encore un lien utile, c'est le site Danube Cycle Path. C'est vraiment de précieuses ressources que vous pouvez trouver dessus. Concernant l'Allemagne, il y a une liste de campings, d'hôtels et de chambres d'hôtes avec le kilométrage sur le Danube. Pour l'Autriche, on n'a pas les campings, mais on a les hôtels et les chambres d'hôtes qui sont proposés. Le site est par contre en anglais. Et autre ressource qui est recommandée par les membres du forum, ce sont les Danube Bike Trail. Sur ces guides, il y a notamment une liste à la fin de tous les campings le long du Danube, ce qui est très pratique en voyage. Donc ces guides qui sont édités par Bikeline sont en 5 parties: Daulschingen Passau, Passau Vienne, Vienne Budapest, Budapest Belgrade et Belgrade Mer Noire. Donc avec les deux premiers, vous couvrez votre trajet. Pareil que tout à l'heure, les guides sont en anglais. Donc si vous êtes intéressé, on mettra comme tout le reste des liens en dessous de ce podcast.
C'est la fin de cette émission. Donc, avec ces trois premières questions posées par nos lecteurs, on voulait vous remercier grandement d'avoir joué le jeu et de nous avoir posé ces questions. C'était un grand plaisir pour nous de chercher les informations, de tout rassembler et de vous répondre dans cette émission. Nous sommes toujours très heureux de voir que vous nous posez des questions, que vous discutez avec nous sur nos réseaux sociaux et par mail. N'hésitez pas aussi à vous approprier le blog dans les commentaires pour poser des questions, pour partager vos propres expériences, donner des conseils aux autres lecteurs, parce que nous débutons. Vous avez peut-être des choses magnifiques à partager vous aussi dans nos commentaires. Vous pouvez discuter entre vous sur les commentaires, ça nous ferait extrêmement plaisir que le blog devienne un petit peu votre espace lui aussi. Pour la prochaine émission, on va relancer très bientôt un appel aux questions dans un article comme la dernière fois. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Tout ce qui vous passe par la tête sur les voyages à vélo, on tâchera de vous répondre au mieux et on vous proposera un nouveau podcast dès qu'on aura 3-4 questions comme cette fois ou plus si vous êtes inspiré. Voilà, merci beaucoup.
À bientôt.